tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Fattah Tiemtori.
Omega bonjour, à la une, 4 soldats français blessés à Waïguia dans l'explosion de leur véhicule, un tout-terrain qui a sauté sur un engin explosif improvisé à la sortie de l'aéroport de Waïguia, c'est dans le nord du pays. Élection municipale au Burkina, faut-il organiser le scrutin en une fois le 27 novembre prochain malgré l'insécurité dans certaines communes ou en deux phases selon le niveau de sûreté dans ces collectivités? L'équation est posée aux partis membres de l'opposition qui ont reçu hier la visite du président de la CENI. Et l'indignation malienne suite aux sanctions de la CEDEAO trouve écho à Ouagadougou. Une organisation dénommée Initiative de soutien au peuple malien appelle à la levée des sanctions jugées illogiques, illégales et illégitimes. Le porte-parole du comité ad hoc de l'initiative est notre invité aujourd'hui pour Bassolma Bazi, ancien secrétaire général de la CGTB. La CEDEAO n'a pas pouvoir de donner des injonctions à la BCAO pour bloquer des avoirs. Vous l'entendrez dans cette édition. Madame, Monsieur, voici donc le sommaire. Bienvenue au journal sur Radio Oméga. Vous avez choisi Radio Oméga pour vous informer et nous vous en remercions. 4 soldats français ont été blessés à Waïguia, dont un grièvement lors de l'explosion d'un engin explosif improvisé au passage de leur véhicule, annonce hier de l'état-major français des armées. On en sait plus dans cet élément de Lamine Traoré.
4 soldats français ont été blessés à Waïguia lors de l'explosion d'un engin explosif improvisé au passage de leur véhicule, annoncé hier soir l'état-major français et rapporté par plusieurs médias, dont l'AFP, l'agence France Presse. Le véhicule tout-terrain a explosé sur un engin explosif improvisé à la sortie de l'aéroport de Waïguia, a indiqué l'état-major, précisant qu'il s'agissait d'une unité de Barkhane à mission de reconnaissance. 4 soldats ont été blessés, dont un grièvement. Ils ont été immédiatement évacués vers Gao au Mali. Ceux qui le mériteront seront évacués vers la France, a poursuivi l'AFP, citant l'état-major français, sans autre précision sur leur état de santé. Pour l'heure, aucune réaction officielle des autorités burkinabées sur cet incident. La force anti-djihadiste Barkhane, présente depuis 2014 au Mali et dont la mission est étendue au Sahel, est au cœur d'enjeux politiques bilatéraux majeurs, avec en toile de fond les accusations de recours par le Mali au service du groupe de sécurité russe Wagner, ainsi que la réorganisation de la présence militaire française dans le pays.
Et la situation sécuritaire au Burkina affecte le programme des élections municipales, un scrutin qui va très probablement être reporté en novembre prochain. En attendant la décision définitive du dialogue politique, le président de la CENI a été reçu en audience par le chef de file de l'opposition pour en parler. Deux scénarios ont été exposés au chef de file de l'opposition pour la tenue de ces élections. On en sait plus avec Régis Boni.
Initialement prévues pour se tenir le 15 mai prochain, les élections municipales ont finalement été reportées en novembre 2022. Le chef de file de l'opposition politique burkinabé, Eddy Kombouégo, a reçu deux propositions émanant de son hôte du jour, le président de la CENI.
Si on ne tient pas les élections en main, c'est que l'on doit proposer des solutions. Techniquement, nous avons reçu le président de la CENI et sa délégation pour nous expliquer quels sont les différents scénarios que l'on peut mettre en œuvre en tenant compte des contraintes sécuritaires. Il nous en a exposé deux. Il nous appartient, cadre de concertation de l'opposition tout entière, d'analyser et de faire le meilleur choix en tenant compte surtout de la sécurité des populations en priorité et du retour de la paix.
Réalisé en une seule fois les élections municipales le 27 novembre prochain ou les organiser en deux étapes le 6 novembre dans les zones non affectées par le terrorisme, puis couvrir ensuite les zones en proie à l'insécurité le 27 novembre 2022, telles sont les propositions faites par la CENI au chef de file de l'opposition politique burkinabé, Élisée Ouédraogo, président de la CENI.
Le cadre de concertation du dialogue politique a souhaité que nous puissions échanger avec eux sur les perspectives en ce qui concerne l'organisation des élections municipales. Nous l'avons fait. Ils ont souhaité que nous puissions venir donc à leur niveau et exposer de manière plus directe donc les différentes options possibles en ce qui concerne la tenue donc de ce scrutin qui doit permettre de parachever le processus de renouvellement des mandats politiques dans notre pays.
Le 25 novembre prochain, une rencontre avec le ministère de l'administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité est prévue à l'effet de discuter sur la question de la tenue des élections municipales de 2022.
Cette rencontre est plutôt prévue le 25 janvier prochain et non le 25 novembre. Le report des élections au Mali a par contre occasionné des sanctions contre le pays. Indignation à Bamako, mais aussi à Ouagadougou. L'initiative de soutien au peuple malien née dans ce contexte veut témoigner une véritable solidarité africaine à l'endroit du peuple malien, mais pas à la junte. L'idée est de mettre en place une dynamique nouvelle en vue de trouver des réponses à la crise diplomatique entre le Mali et la CEDEAO. Corinne Sawadogo et Charles Da.
Le comité ad hoc de l'initiative de soutien au peuple malien donne de la voix pour appeler les Africains à soutenir le peuple malien qui a été frappé le 9 janvier dernier par des sanctions à l'issue du double sommet CEDEAO-UEMOA. Des sanctions jugées sévères par le comité. Bassolma Bazier, porte-parole du comité ad hoc de l'initiative de soutien au peuple malien, ISPM.
En vue de trouver les meilleures réponses à la crise diplomatique entre le Mali et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, nous semble indispensable. Conscient de la nécessité d'un large rassemblement des peuples pour témoigner une véritable solidarité africaine à l'endroit d'un pays frère, le Mali, nous avons décidé de lancer une initiative intitulée « Initiative de soutien au peuple malien ». Cette initiative, portée par des Africains et Africaines, vise d'une part à réfléchir sur les voies et moyens devant permettre d'assister le peuple malien.
Par ailleurs, le comité dénonce la coupure des réseaux sociaux constatée depuis le 10 janvier dernier, qui, selon eux, reste une restriction au droit à l'information et à l'éducation. Bassolma Bazier, porte-parole du comité ad hoc de l'initiative de soutien au peuple malien, ISPM.
C'est une violation d'un droit fondamental. Et même le troisième niveau, regardez, il y a combien d'entreprises, en dehors même de la presse, les gens, c'est à travers les réseaux sociaux qu'ils font des commandes, ils font des placements, ainsi de suite, ils font des affaires. Donc c'est comme si, subitement, on dit, on ferme l'entreprise de la personne. Il n'est ni légal, encore moins légitime, et ce n'est pas du tout correct. Voilà. Donc, s'il y a des problèmes, il faut faire face courageusement à ces problèmes, au lieu de passer dans ce type de jeu-là, qui ne sont pas véritablement, ou qui ne rendent pas véritablement responsables. J'assume mon propos à ce niveau.
La tenue de cette conférence de presse lance officiellement l'initiative de soutien au peuple malien, une initiative qui ne vise aucunement à apporter un quelconque soutien à la junte. Du reste, il condamne les coups d'État et la mauvaise gouvernance, a précisé le comité.
Bassolma Bazier a lancé au cours de cette conférence de presse un appel par l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO à lever les sanctions prises à l'encontre du Mali, des sanctions jugées illégitimes et discutables sur le point de vue du droit.
Lancer un appel à l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'espace CEDEAO, UEMOA, de lever très rapidement ces sanctions qui, de notre point de vue, ne sont ni légitimes, encore moins le côté même judiciaire est discutable, dans la mesure où vous savez très bien dans le protocole de la CEDEAO sur la démocratie, il n'y a pas de tel type de sanctions. Voilà. Les sanctions qu'on pourrait rencontrer à l'intérieur sont à trois niveaux. Premier niveau, si on estime qu'un pays est fautif entre griffes, on le suspend de la CEDEAO. Si on estime qu'un pays est fautif entre griffes, on ne tient plus une rencontre de la CEDEAO sur le territoire de ce pays. Si on estime qu'un pays est fautif, la CEDEAO s'engage à ne plus soutenir les candidatures de ce pays-là à des postes internationaux. Donc vous voyez que les trois que j'ai cités, il n'y a aucune sanction financière ou encore même des blocages frontaliers au niveau des sanctions de la CEDEAO, dont nous estimons que ce n'est pas logique ce qui est en train d'être fait. Et même au niveau des gels des avoirs, si vous parcourez les statuts de la CEDEAO, vous allez regarder et constater qu'à l'article 4, il est strictement interdit de donner des injonctions à la CEDEAO pour procéder, à la BCAO pour procéder à des gels d'avoirs. Donc l'article 4 est très clair, que ce soit un chef d'État ou un gouvernement, ou une entité géographique soit-elle, n'a pas pouvoir de donner des injonctions à la BCAO pour bloquer des avoirs.
Cette situation au Mali a fait également réagir l'Association des jeunes patriotes du Burkina, AJPB. Quant à l'actualité burkinabé, l'AJPB a affiché son opposition à la marche du 22 janvier projetée par des organisations de la société civile. Elle invite d'ailleurs la population à plus de courtoisie et d'indulgence envers les autorités. Corinne Sawadogo et Valérie Guéré.
Deux sujets majeurs étaient à l'ordre du jour de cette conférence de presse de l'Association des jeunes patriotes du Burkina. Il s'agit des récentes sanctions prononcées par l'UEMOA et la CEDEAO contre le Mali et la marche prévue pour le 22 janvier. Pour le cas du Mali, la JPB dénonce un manque de courtoisie de la part de la population face aux dirigeants. Abdoulaziz Zongo, président de la JPB.
À nos frères jeunes et à nos frères burkinabés qui s'expriment mal à travers nos autorités, premièrement, c'est une autorité d'un pays. Deuxièmement, ce sont des doyens, si on peut dire. Si tu as le courage d'une manque de respect à une autorité ou à un doyen, tu peux manquer de respect vers tes parents. Parce que si tu as le courage d'insulter un président, quelqu'un qui peut te mettre au monde ou quelqu'un qui est ton grand frère, donc tu peux manquer aussi ceux qui sont à la maison.
Par la suite, l'association dit être contre la marche du 22 janvier, même si cette marche prévue par le mouvement Sauvons le Faso vise à dénoncer la malgouvernance et soutenir les FDS, la JPB pense que le moment est mal choisi.
À l'heure actuelle, avec la crise sécuritaire, nous, c'est pas le bon moment de marcher. Donc nous aussi, c'est notre avis. Voilà. Comme si nous sommes dans un pays de droit, chaque personne a droit à donner son avis. Nous pouvons donner notre avis et dire que c'est pas le bon moment de faire une marche. Il y a un certain remaniement qui a été fait. Ouais, laissez au moins voir.
Appelant les Burkinabés à l'union. L'association des jeunes patriotes du Burkina a invité les opérateurs économiques et les autres composantes à venir en aide aux personnes déplacées internes qui se chiffrent à plus de 1,5 million de personnes à ce jour.
Omega Sport.
On parle maintenant sport, football, CAN Cameroun 2021. Les étalons seront face au Gabon en huitième de finale dimanche. Les Panthères du Gabon se sont offert leur ticket en imposant un match nul au leader marocain, 2-2. L'entraîneur gabonais Patrice Neveu s'est félicité du nul tout en prévenant le Burkina. Selon lui, le collectif et la discipline seront les forces des Panthères face aux étalons dimanche. À Yaoundé, Ibrahim Bayili et Bernabé Cabré pour des précisions.
En terminant deuxième de la poule A, le Burkina Faso savait que son adversaire pour les huitièmes de finale sera le Maroc, le Gabon ou le Ghana. À deux reprises, le Gabon a mené. À deux reprises, les Burkinabés ont pensé affronter le Maroc. Ce score nul de 2-2 offre la première place au Maroc et la deuxième au Gabon. Un résultat bon à prendre, selon le coach gabonais Patrice Neveu.
On a eu beaucoup d'occasions. On a pas toujours bien fini, c'est ce que je leur dis avec les décalages qu'on a réussi à faire. Je pense que c'est quand même un bon match nul qui doit nous permettre de rester la tête dans la compétition et d'aborder notre prochain adversaire avec beaucoup de sérieux.
Pour les huitièmes de finale, ce sera un autre match entre deux équipes qui se sont affrontées début janvier dans un match amical gagné 3-0 par les étalons. L'entraîneur des Panthères compte sur la discipline tactique de ses joueurs pour prendre le dessus.
Le Burkina, qui sera sans doute notre adversaire, sera un match compliqué. À force, c'est notre collectif et que c'est l'arme principale qui pourra nous permettre, je dirais, de faire un résultat contre le Burkina. Et puis aussi d'être extrêmement discipliné, parce que c'est pas mes joueurs, c'est pas uniquement une équipe qui est généreuse. C'est une équipe qui tactiquement travaille bien, qui s'articule bien sur le 3-5-2 ou 4-2-3-1, ça dépend. Mais c'est une équipe des jeunes joueurs qui sont extrêmement disciplinés, qui fait que c'est des atouts, je dirais, pour perturber le Burkina.
Dimanche à 16h, Burkinabé et Gabonais vont se défier à Limbé pour leur troisième confrontation en phase finale de CAN. Les deux précédentes ont vu les Gabonais gagner 2-0 en 2015 et faire match nul 1-0 en 2017. Bernabé Cabré Yaoundé, Radio Omega.
Hier s'est joué également Ghana-Comores, la surprise de cette CAN, la victoire des Comores face au Ghana, 3-2. Les Black Stars sont éliminés de la compétition. Le point complet des matchs d'hier avec Abdoulkader Konaté à Yaoundé.
Après le groupe A, hier c'était au tour du groupe B et C de connaître ses représentants pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans le groupe B, le Malawi et le Sénégal de Sadio Mané se sont quittés dos à dos sur un score nul et vierge de 0-0. De l'autre côté, la Guinée s'incline 2-1 face au Zimbabwe. Les buts du côté du Zimbabwe ont été inscrits par Noledge Moussona à la 26e minute, suivi de Kudawashe Mahashi à la 43e minute. Naby Keita réduira le score à la 49e minute. Au classement, les Lions de la Teranga, premier du groupe B, et la Guinée, deuxième, se qualifient pour les huitièmes de finale. Le Malawi devra se contenter de la troisième place et patienter pour savoir s'il fera partie des meilleurs troisièmes. Coup de tonnerre dans le groupe C avec l'élimination du Ghana par les Comores qui viennent d'entrer dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations en réalisant un exploit historique 3-2 face au Black Star du Ghana. Dès la 4e minute de jeu, le Ghana encaisse un but matinal inscrit par Ben Nabouhan. 20 minutes plus tard, André Ayou écope d'un carton rouge, mettant son équipe en difficulté. Ahmed Bougni profitera pour inscrire un doublé dans ce match. Score final 3-2 en faveur des îles Comores. Dans l'autre affiche du groupe, le Gabon sans sa star, Pierre-Emerick Aubameyang, tient tête au Maroc 2-0 et verra donc les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, malmené dans ce match, termine invaincu et en tête du groupe C. Les Comores pointent donc du coup à la troisième place et le Ghana bon dernier. Rappelons que c'est la première fois depuis 2006 que le Ghana est éliminé en phase de poule de Coupe d'Afrique des Nations.
Et cette CAN ne semble pas être celle des équipes traditionnellement favorites et la qualité du jeu produit par ces équipes laisse à désirer. C'est ce que pense l'ancienne gloire du football africain Roger Mila. Il espère voir les choses se décanter dès les huitièmes de finale. Il est au micro ici de Abdoulkader Konaté.
Bon, le niveau n'est pas encore à 100%, mais il y a eu quelques équipes qui ont traversé déjà 75-80%. Mais je pense que c'est le premier tour qui vient juste de s'achever. Je crois que ça va monter en puissance mais maintenant à partir des huitièmes de finale.
Deux matchs sont au programme ce soir, Égypte-Soudan et Nigeria-Guinée-Bissau à 19h. Le Nigeria est qualifié avec 6 points, l'Égypte deuxième avec 3 points. Un point chacun pour la Guinée-Bissau et le Soudan.
La revue de presse.
La revue de presse à présent, ce sera avec Alenta Ouedraogo.
À la une des quotidiens du jour, ça grogne. Des petits commerçants menacent d'augmenter les prix des marchandises, titre à sa une, le journal Le Quotidien. Et aujourd'hui, aux façons de se montrer plus précis en écrivant, amendes et pénalités de surcharge prélevées par l'ONACER, les petits commerçants annoncent une tendance haussière des prix des produits. Autre chose, la coupure d'Internet au Burkina Faso. Le balai citoyen dénonce une dictature, nous apprend le journal Le Pays, et le quotidien de renchérir. L'histoire a déjà retenu que c'est le président Kaboré qui aura décidé de priver ses concitoyens de la liberté d'expression. Dans l'édito du quotidien, on parle de l'accaparement des terres par les promoteurs immobiliers. De l'avis de notre confrère, l'autorité de l'État est à rude épreuve. Dans un contexte où les promoteurs immobiliers ont fait main basse sur le foncier national, l'État est dans l'obligation de réagir en mettant en exergue son autorité dans toute sa plénitude. Analysant le rapport de la commission ad hoc instruit par le ministre en charge du développement urbain, notre confrère nous apprend que le pays est dépecé comme un mouton de tabaski. Avant de poursuivre, que la volonté du gouvernement de mettre de l'ordre doit nécessiter une vraie révolution qui ne tiendra pas compte des cartes politiques et autres affinités, sans quoi dans quelques années le Burkina Faso n'aura plus de terres cultivables, car elles seront toutes accaparées par les promoteurs. Et puis hors de chez nous, au Mali, la quête de solutions du Mali face à l'embargo de la CEDEAO et de l'UOMOA fait réagir nos quotidiens. Pour le doyen des quotidiens, l'observateur Palga, en se rendant à Conakry ou encore à Nouakchott, il s'agit avant tout de trouver en catastrophe des corridors maritimes de remplacement aux ports d'Abidjan et de Dakar où transitent en général les importations et les exportations du Mali. Il s'agit d'un contournement risqué et difficile des sanctions de la CEDEAO et de l'UOMOA. Ces tentatives de contournement sont autant plus risquées que difficiles car la sous-région a connu une intégration telle qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie, précise aujourd'hui au Faso. Eh bien, pour notre confrère Le Pays, les obsèques de l'ex-président Ibeka pourraient être une occasion pour la junte de se racheter. l'on peut déjà saluer la volonté des autorités de la transition d'élever Ibeka à la dignité qu'il mérite, indique le pays. Qu'à cela ne tienne, il est impératif pour le gouvernement de transition de se montrer à la hauteur des défis du Mali, de sorte qu'on ne puisse leur reprocher les griefs qui ont conduit à la déchéance de l'ex-chef d'État, conclut le journal Le Pays.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Notre invité est Bassolma Bazié, porte-parole du comité ad hoc de l'initiative de soutien au peuple malien. Pour lui, la question de la durée des élections est une question interne au peuple malien qui est assez souverain et mature pour décider. Bassolma Bazié, ancien secrétaire général de la CGTB, répond ici aux questions de Valérie Guéré.
Bassolma Bazié, bonjour.
Bonjour madame.
L'Afrique a connu plus de 200 coups d'État en 110 ans, le Burkina 4 coups d'État depuis son indépendance, le Mali en a connu 5, on a constaté des putschistes qui finissent par vouloir garder le pouvoir, tout comme d'autres ont d'ailleurs gardé le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas pour éviter cela que la CEDEAO fait une pression sur les autorités maliennes?
D'abord, je m'incline devant la mémoire de toutes les pertes en vies humaines qui, dans le cadre de ces coups d'État que vous venez d'énumérer. Disons que les coups d'État dans nos pays, ayons le courage de le dire, que ce sont des conséquences, ce ne sont pas les causes. Dans la majeure partie des cas, les coups d'État sont des conséquences d'une mauvaise gouvernance, d'une malgouvernance très profonde, d'une violation des libertés constatées, où les populations étant exaspérées, à un niveau donné, n'ayant plus un autre pilier d'appui, les militaires calculent la période précise et estiment pouvoir agir au nom de ces mêmes populations.
Après la prise du pouvoir, la charte de la transition malienne stipulait une période de 18 mois de transition. Assimi Goïta s'était dit partant pour... Et finalement, revirement, il parle de 5 ans. Certainement parce qu'il a vu qu'il a une bonne cote auprès de la population. Est-ce que Assimi ne cherche pas à se jouer de la CEDEAO?
La question de la durée de la transition au Mali est une question interne. C'est une question gérée par un peuple d'un État souverain. Nous ne rentrons pas dans ces débats. Nous, nous sommes très solidaires avec le peuple malien et le peuple malien a la maturité historique nécessaire de trancher ces questions au niveau interne. Tous ceux qui font les gesticulations autour en disant que la transition va jusqu'à 5 ans, je leur dis également qu'au Burkina, les gens se sont précipités en disant qu'il ne fallait pas prolonger la transition parce qu'il fallait aller à des élections. Nous avons fait des élections. Aujourd'hui, nous sommes où? Le Burkina est à près de, au minimum, 2500 morts liés à l'insécurité dans notre pays. Vous voyez que le peuple s'est sacrifié avec des martyrs en estimant obtenir une gouvernance plus vertueuse que le temps de Blaise Compaoré.
Le Mali n'est pas le seul pays qui a connu des sanctions. La Côte d'Ivoire en a connu avec Gbagbo au pouvoir. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO en veut au Mali?
La CEDEAO, qu'elle en veuille au Mali ou pas, nous avons fermement condamné ces sanctions. C'est à la limite même ceux qui ont pris ces sanctions ne sont pas imprégnés véritablement de la vie communautaire au niveau des populations. Voilà pourquoi nous lançons un appel que les autres peuples comprennent que la crise n'est pas malienne, elle est africaine. Parce que ce qui est posé ici, c'est l'indépendance véritable des pays africains. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je ne peux pas comprendre que des chefs d'État n'aient pas la capacité de faire des discernements en sanctionnant le Mali, en fermant des frontières, en gelant des comptes en banque concernant l'ensemble du pays.
Le président ivoirien a réagi sur la sanction de la CEDEAO. En gros, il dit qu'ils ont sanctionné malgré eux, car le Mali est un pays frère, mais qu'ils ne peuvent pas permettre à des militaires de faire 5 ans au pouvoir. Que faut-il comprendre de cette posture de Alassane Dramane Ouattara?
Quand vous considérez que quelqu'un est son frère, on ne l'assassine pas. Or, les mesures qui ont été prises ne sont rien d'autre qu'une forme d'assassinat programmé de tout un peuple. Et ceux qui se prononcent en disant que ce sont des peuples frères et qu'eux, ils ont été contraints de prendre ces sanctions, en quoi eux-mêmes ils sont modèles en les prenant? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que j'ai bien dit que les coups d'État ne sont d'autre que des questions de conséquences de la mauvaise gouvernance. Quand on tripatouille une constitution pour se donner un mandat illégitime ou illégal, en quoi on a un modèle pour dire aux militaires qu'ils ne doivent pas être au pouvoir?
Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. La mise en onde a été assurée par Fidèle Compaoré. Je suis Abdoul Fattah Tiemtoré. Excellent après-midi à vous qui écoutez Radio Omega. L'info continue sur nos ondes. Radio Omega.